Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table comme fait culturel majeur et comme enjeu global. Une émission en partenariat avec la plateforme des cultures du goût, alimentation générale que dirige Pierre Hivernat. Cher Pierre, bonjour.
Bonjour Caroline.
En fin d'émission, à 12h25, vous proposerez la chronique La cerise sur le gâteau. Aujourd'hui,
Je vais vous parler d'une exposition qui est exceptionnelle.
Cookbook.
Exactement.
C'est son nom. À tout à l'heure, 12h25. Bonjour Natacha Triou.
Bonjour Caroline.
Vous nous proposez La Madeleine de, soit le souvenir gustatif d'une personnalité. Qui est cette personnalité du jour?
Aujourd'hui, c'est Léonore Doricondo, la romancière et violoniste.
Et La Madeleine, elle est aux alentours de 12h15. Et pour commencer, zoom sur la jeune cuisine, mouvement porté par des cuisinières et des cuisiniers créatifs et audacieux, capables de briser les codes de leur père et d'en inventer naturellement de nouveaux, de mêler plaisir de la table et conscience des enjeux alimentaires contemporains. Cette jeune cuisine est promue depuis 16 ans maintenant par une équipe de défricheuses et de défricheurs avec à sa tête le porte-parole de toute une génération de chefs et de chefs qui a son site, sa revue et son festival. Et son chef et fondateur est avec nous, c'est Luc Dubanchet. Bonjour.
Bonjour.
Fondateur et directeur donc d'Omnivore qui a fêté ses 15 ans l'année dernière, on va le dire comme ça. Et comme vous promouvez depuis quelques 16 ans maintenant la jeune cuisine, et on va bien sûr revenir sur cette appellation de jeune cuisine, nous avons eu envie d'inviter une jeune chef dont tout le monde parle depuis quelques temps maintenant. Elle lève les yeux au ciel, elle a 27 ans, c'est Manon Fleury qui est avec nous et nous sommes ravis de vous accueillir. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la chef du Mermoz à Paris dans le 8e arrondissement. Alors on va commencer avec Omnivore, parce que tout le monde ne sait pas ce qu'est Omnivore. Encore Luc Dubanchet, genèse et évolution de ce site, revue et festival, c'est quoi Omnivore au départ?
Genèse, c'est début des années 2000, un paysage gastronomique assez figé, paysage français, très traditionnel, très classique, avec des cuisiniers très classiques, un art de la table très classique, une manière de consommer le restaurant très classique. Et moi qui ai 29 ans là-dedans et qui m'ennuie au restaurant, alors que je suis déjà critique gastronomique, et je me dis qu'est-ce que je peux faire pour non pas simplement être journaliste, observateur, mais pour avoir une position d'accompagnateur de ces chefs qui commencent à peindre leur nez et qui ont le même âge que moi et qui visiblement n'ont pas envie de faire la même chose que leurs aînés. Donc Omnivore naît d'une frustration, en tout cas d'une attente d'un jeune journaliste de 29 ans, aussi d'une ambition de créer une structure, une entreprise et de la volonté de propulser le discours de la gastronomie et y compris l'écriture journalistique de la cuisine, dans un univers qui me semblait être de mon temps, de mon espace, de mon époque, du 21e siècle. Et Omnivore est né de ça. Et c'est parti de mon métier, c'est-à-dire moi j'écris, je suis journaliste.
Vous avez
et
donc, écrit beaucoup chez Goemio.
Oui, j'ai été le patron de la rédaction de Goemio et j'en suis parti parce que je ne me retrouvais pas justement dans cette pratique-là. Et les premier pas d'Omnivore, c'est une feuille de chou de 12 pages. C'est un datzibao, c'est plusieurs centaines de milliers de caractères écrits tout petits parce qu'on n'avait pas d'argent, lancé en septembre 2003 pour pouvoir parler à ce qu'on concevait être la nouvelle génération de la cuisine.
Et donc, mais accompagné, mais sans être un guide non plus,
non,
à usage du bien manger, sans classement.
Un observateur d'abord, et il fallait d'abord écrire sur la cuisine, avant qu'elle existe d'une certaine manière, de manière très prétentieuse, mais c'était raconter la cuisine de ce début des années 2000. Manon n'était pas encore née, ou quasiment pas.
D'ailleurs, elle vous écoute.
Mais c'est intéressant parce que
qu'est-ce qui se passait avant Manon?
Un des premiers chefs qui a déclenché ça, c'est quelqu'un qu'elle connaît très bien, c'est Pascal Barbeau. Le cuisinier de l'Astrance. Et en 2000, moi j'avais mon bureau pas très loin d'ici d'ailleurs, et Pascal Barbeau s'est installé avec Christophe Roy dans ce petit restaurant de la rue Beethoven. J'allais y déjeuner avec des amis, on était 4 ou 5 dans le restaurant. Le restaurant était quasiment vide, il venait de se lancer, il venait de remplacer une sorte de mangeoire comme ça, 13-16e, et ils avaient ouvert l'Astrance. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais dans sa pintade et la purée de pommes de terre qu'il fait à midi, lui venait de chez Passard, il avait été chef de Passard quand
Alain Passard aussi.
Il se passe quelque chose de différent. Et donc, ce quelque chose de différent, comment on l'écrit? Comment on l'analyse? Comment on en rend compte? Omnivore est né de cette envie d'être un tamis pour raconter la cuisine contemporaine.
Alors, 16 ans après, Omnivore n'est plus une feuille de chou, mais un site, une revue, un festival incontournable. L'Astrance de Pascal Barbeau à 3 étoiles. Et donc, effectivement, Manon Fleury, vous êtes passé par l'école, je ne sais pas si c'est une école, mais en tout cas, par la cuisine de Pascal Barbeau. Ça vous parle? Ce que dit Luc Dubanchet, notamment sur Pascal Barbeau et l'esprit de sa cuisine.
Ça me parle énormément et ce que dit Luc, en fait.
Bon, il vient de perdre une étoile, mais il est quand même très étoilé.
Oui, d'ailleurs, Pascal Barbeau. Pour tout ce qu'il est, il aurait jamais dû perdre une étoile, mais bon, bref, c'est, ça va rejoindre ce qu'on dira peut-être plus tard sur aussi l'esprit qu'il faut donner à la jeune cuisine actuelle, en fait. Parce que pour moi, les étoiles n'ont plus vraiment de valeur et c'est pas du tout ce que je recherche. Et pour moi, Pascal, la cuisine de Pascal Barbeau, elle est pas avant tout, c'est pas une cuisine avant tout trois étoiles, en fait. Et rentrer dans l'esprit de l'Astrance, c'est pas ça du tout. C'est plutôt, justement, c'est rester vraiment une petite maison. Et moi, c'est ce que j'ai appris, ce qu'on apprend quand on travaille à l'Astrance, c'est que c'est pas les étoiles l'important. L'important, c'est l'excellence et de ce qu'on met dans l'assiette. La manière dont on se comporte en cuisine aussi, je trouve qu'il y a un réel esprit Astrance. Et il a formé des milliers de cuisiniers, en fait. Mais c'est un esprit vraiment particulier qu'il faut saisir et qui a plein de valeurs, en fait. Et en fait, l'esprit Astrance, c'est, regroupe beaucoup de valeurs à la fois qui n'existent vraiment pas dans beaucoup de cuisines.
L'esprit.
C'est ça qui est difficile à capter.
C'est important, parce que vous l'avez dit tous les deux, esprit et valeur. Est-ce que c'est ça aussi que porte Omnivore? Une façon de considérer qu'il y a toujours des mouvements tectoniques entre la cuisine et la société, d'où d'ailleurs on va y venir, hein, ce festival cette année, c'est aussi la cuisine responsable, la cuisine dans sa société, dans son monde, dans son temps.
Mais ce qui est formidable pour moi, arrivé à mon âge et avec
canonique,
cette expérience-là,
hein, bien sûr, Luc Dubanchet.
Pas loin, mais en tout cas je suis plus de la jeune cuisine, moi j'ai plus l'âge de la jeune cuisine, c'est écouter en trois mots Manon, et j'imaginais faire quelque chose pour des gens comme elle, qui arriveraient comme elle, et qui auraient une structure intellectuelle, mentale, totalement différente de la structure que moi j'ai rencontrée quand j'ai commencé à 28 ans à écrire sur la cuisine. Et Pascal Barbeau, il est cette transition-là, et Manon en est l'aboutissement. Oui, un esprit, et oui, une capacité à comprendre que le goût n'a rien à voir avec une question de statut, que la beauté de la cuisine n'a rien à voir avec une question de société et de position dans la société, et qu'on peut faire des choses excellentissimes et de très haut niveau, mais qui restent abordables et qui sont accessibles. Et il faut pas oublier une chose, c'est que Pascal Barbeau a commencé à l'Astrance par faire simplement avocat et crabe. Pour simplifier, son premier plat, un de ses premiers plats, c'était avocat et crabe, et puis champignons de Paris et foie gras. Et il en a fait plus qu'une base, quelque chose qui est, je pense, une trame de fond. Comme avant lui, d'ailleurs, des gens comme Michel Bras ou aussi Alain Passard, bien entendu, ont fait pour la cuisine et les cuisiniers qui sont arrivés. Et je cite pas par hasard Michel Bras, Alain Passard, je pourrais aussi rajouter Michel Troigros et Pascal Barbeau, c'est que dans leur modestie de l'écriture culinaire, ils ont appris, je crois, vraiment à transcender les produits, ce qui vient de la terre, et le mener vers une compréhension du public qui va au-delà simplement des codes de la cuisine française. Ces mêmes codes qui sont surcodifiés par les étoiles, par tout ce qu'on vient de se dire. Et Omnivore, justement, nous, on a un guide avec des 300 adresses à l'intérieur. Il a pas tellement bougé, en tout cas, depuis 15 ans. Et depuis 15 ans, on n'a jamais remis d'étoiles, on n'a jamais fait de classement et on n'en fera jamais. Parce que je considère que ça vient détruire le potentiel créatif d'un chef. Et qu'au fond, en tant qu'humain, on n'a pas envie d'être classifié. C'est pas comme dans un jeu vidéo avec nos vies ou nos étoiles qui sont au-dessus de notre tête. Et je vois pas pourquoi la cuisine serait ça. Et donc Manon, voilà, elle a résumé en trois minutes exactement ce que je pense moi de la cuisine depuis 20 ans.
Manon Fleury.
Oui, c'est tout à fait vrai. Et j'en parlais encore ce midi avec des clients qui passaient, qui me disaient, mais moi je pense que tu vas avoir une étoile dans l'année. Et je disais, mais en fait, c'est pas du tout ça mon but. En fait, je veux pas mettre mon énergie là-dedans parce que tout ça, c'est pour moi, c'est une pression qui est négative et qui a formé des générations de cuisiniers à avoir cette espèce de graal qu'on cherche à tout prix. Et qui est pas forcément pour moi ce qu'on devrait rechercher dans la cuisine. Quand je cuisine, je me mets toujours à la place de mon client à me dire voilà, comment donner du plaisir, comment donner des sensations, comment rappeler des souvenirs. Et pour moi, la gastronomie doit être synonyme de ça et pas de se dire comment je vais faire pour avoir une étoile, deux étoiles, quels sont les critères pour avoir ça. Et c'est bien que personne le dise officiellement, mais il y a beaucoup de chefs cuisiniers qui vont chercher ces critères-là.
Qui pensent comme vous.
Non, justement.
L'inverse.
Enfin, il y en a. Je ne pense pas être unique. Et je pense qu'il y a vraiment aussi une génération de cuisiniers qui rejette tous ces codes. Mais je pense qu'il y a des chefs qui vont chercher les critères pour avoir une, deux, trois étoiles. Et pour moi, c'est pas du tout la bonne recherche quand on fait la cuisine.
Luc Dubanchet, je disais, mais je le mettais entre guillemets, cette jeune cuisine, mouvement. Est-ce qu'on peut dire mouvement?
Oui. Moi, je crois que oui. Quand on écoute Manon, on peut dire que derrière ça, il y a toutes les couches qui font un mouvement. Il y a une prise de position, il y a une attitude, il y a un état d'esprit, il y a une détermination. Et justement, contre un déterminisme, Et donc pour moi, et c'est ce que j'ai essayé, et ce que Mounivore essaie d'entretenir depuis toutes ces années, c'est oui cette position singulière par rapport à la cuisine qui soit justement détachée de tout le substrat, encore une fois, sociétal ou institutionnel, etc. Donc la jeune cuisine au sens où on doit être rebelle, on doit continuer année après année, et je pense que on peut être jeune à 60 ans. Hein.
Oui, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'état d'esprit.
J'ai l'image de Pierre Gagnère qui traverse ce studio, et s'il n'y a pas plus jeune que Pierre Gagnère, mais parce que Pierre Gagnère se fout de tout ça, de justement. Alors il a tout aujourd'hui, lui qui n'a plus rien eu à un moment donné de sa vie. Donc c'est aussi dans un parcours de cuisinier, quand Pierre Gagnère perd tout en 96, plus personne n'est là pour le soutenir. Aujourd'hui, c'est un des cuisiniers qui a le plus d'étoiles au monde et le plus de succès, y compris économique, financier dans le monde. Sauf que lui, il est toujours resté dans sa position de cuisinier, c'est-à-dire de créateur. C'est-à-dire que de quelqu'un qui est, comme Manon, derrière les fourneaux, mais pas comme un ouvrier qui a embouti des tôles, comme quelqu'un qui réfléchit, comme un artisan qui réfléchit effectivement aux sensations qu'il va procurer, etc. Donc être jeune, c'est se donner les moyens d'être en permanence dans cette réflexion-là, dans cette énergie-là et dans cette fragilité. Et on parle jamais de fragilité en cuisine, très très peu de fragilité. Et on essaye à Omnivore de montrer ça sur les différentes scènes. La cuisine, c'est pas quelque chose qui est fondu en une pièce. C'est quelque chose qui se cisèle au quotidien, service après service, client après client quasiment. Et c'est ce qui fait le succès ou l'échec d'un restaurant.
C'est amusant que vous parliez du terme de fragilité qu'on utilise peu en cuisine, parce que Manon Fleury, en préparant cette émission, j'ai vu que vous veniez de la pratique de l'escrime que vous aviez faite à haut niveau. Hein. Et ça me faisait penser à ce que nous avait dit le chef Jean Sulpice, qui lui fait du vélo, mais comme un fou. D'ailleurs, c'est là qu'il trouve ses recettes, ses plats, et qui parlait de la cuisine comme un sport. Est-ce que, justement, cette pratique à haut niveau d'un sport comme l'escrime vous a endurci ou rendu plus forte pour affronter ce milieu de la cuisine où on ne peut pas être fragile?
Oui, vraiment. Et je pense pas qu'on puisse... Ouais, c'est vrai qu'on sur le terrain, on a pas le droit d'être fragile, mais tous les chefs que j'ai rencontrés, qui m'ont marqué, et tous les chefs qui m'ont formé, avait une sensibilité qui était... c'est ce qui faisait la différence, en fait. C'est cette fragilité, justement, qui monte les...
Qu'on n'en parle pas chefs. Ne veut pas dire qu'on ne l'est pas. Hein.
Oui, bien sûr. Mais derrière tout grand chef, je pense qu'il y a une vraie fragilité. Et oui, le sport de haut niveau m'a aidée. Et m'aide toujours, parce que je pense qu'il faut avoir une force de caractère pour être cuisinier. Il faut aimer cette adrénaline qu'on a au quotidien, entre les services. Il faut aimer aussi... Voilà, ce qu'il disait aussi Luc, c'est-à-dire se remettre tout le temps en question, être poussé dans ses retranchements aussi, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans le sport également, c'est-à-dire aussi savoir rebondir. Je dis souvent en cuisine, quand on a un échec, qu'on fait tomber quelque chose par terre, que ça va pas, que c'est une mauvaise matinée, et je dis toujours à mon équipe, rebondis, saute. Et comme quand on tombe et qu'il faut remonter à cheval. Bah, pour moi, c'est vraiment des choses qui sont assez symboliques et qui fonctionnent aussi en cuisine.
Allez, on vous retrouve dans quelques minutes, juste le temps de laisser passer la Madeleine de...
Tu m'aurais donné une chance, je retente mon... Allez, c'est mon reparti. Gratinage, là. Bon, évidemment.
Non, mais c'est le gaz, ça se trouve. C'est le problème de gaz.
Ouais, je sais pas si c'est le gaz ou c'est...
Ah,
nouvelle génération, hein. On cuisine au chalumeau, pardon.
On vous demandera si vous cuisinez au chalumeau. Ça, c'était dans l'ambiance du festival Omnivore l'année dernière. Alors, Natacha Triou.
Alors, vous parliez de jeunes talents en cuisine. Bien, voici une jeune auteure, mais un talent confirmé.
Vous savez qu'on peut dire autrice maintenant. C'est
autrice,
permis.
Oui, c'est vrai. Donc là, nous allons écouter Léonore de Recondo. Elle est violoniste et écrivaine depuis 2010. En 2017, elle a reçu le prix du roman des étudiants France Culture pour Point Cardinal. Et là, elle publie aux éditions Sabine Vespizer son 5e roman, Manifesto. C'est un livre solaire sur la mémoire de son père. Elle nous entraîne en Espagne, en Italie. Et là, pour ça, Madeleine, Léonore de Recondo prolonge le voyage en Toscane.
Ma Madeleine a une forme de galette. C'est une grande galette ronde qui s'appelle la cecina. C'est vraiment un plat de pauvre. C'est une galette de pois chiches qui est faite à base d'eau, de farine de pois chiches et d'huile d'olive. Donc ça fait une sorte de pâte à crêpes, c'est très liquide. On met ça dans une sorte de très grande poêle, donc ce sont des plats particuliers, et on met ça dans le four à bois. Cette madeleine, j'en ai beaucoup mangé, je dois vous dire. C'était dans mon petit village en Toscane, où j'ai passé 10 ans avec mes parents, à Pietrasanta. Il y avait un fournil où il faisait un forno, comme on dit là-bas, où il faisait la pizza, bien sûr, la focaccia et la cecina. Alors, cette dame sortait cette grande poêle, disons, sans manches, comme ça. Elle le sortait avec un bateau de bois. Et on voyait crépiter cette sorte de crêpe épaisse jaune, mais jaune comme les blés, un jaune magnifique, avec une sorte de toute petite croûte dessus. Et elle découpait ça avec une sorte de couteau très très vite. Et alors évidemment, le truc, c'était d'être là à la sortie du four, parce que c'est là que c'est bon, c'est très très chaud, on se brûle, mais c'est délicieux. Elle mettait ça dans des papiers, des sortes de papiers assez épais, marron, comme il y a aussi en Italie, qui faisaient tout de suite des auréoles pleines de gras, parce que quand même, il y a beaucoup de gras, et avec du poivre par-dessus. Et ça, j'en ai mangé des tonnes, et c'est extraordinaire. Mes parents buvaient des coups le soir au bar, qui était le bar Michelangelo, et moi j'allais un tout petit peu plus loin au forno où ils me donnaient 1000 lire, 2000 lire, parce que c'était l'époque. Ça, c'était au poids. Et alors après, je la portais, je pouvais la porter au bar, et puis ils en mangeaient un peu, mais je le gardais vraiment pour moi, en fait. Je n'étais pas... Si ils pouvaient aller s'en acheter eux-mêmes. Moi, j'y allais toute seule. C'était le plaisir. J'étais grande. J'avais 6 ans, mais j'y allais toute seule. Matcecina. C'est pas la consistance d'une crêpe. On va dire que c'est épais d'un demi-centimètre. Donc c'est assez épais. Le dessus est un tout petit peu croustillant parce que l'huile s'est mise dessus, s'est chauffée très très fort dans ce four à bois. Et c'est assez onctueux à l'intérieur. Après, ça durcit un peu quand ça refroidit. Mais quand on le mange très chaud, il y a quelque chose d'un peu crémeux. Même si ça se tient, c'est un peu crémeux. Et puis, il y a ce goût de l'huile, du pois chiche, qui est donc assez riche. Mais la texture est quand même onctueuse, fluide. C'est pas granuleux comme peut l'être le pois chiche ou le houmous, parce que des fois, on a cette idée-là. Et en fait, c'est un grain très fin en bouche, plus le poivre. Enfin, ça vous donne envie, là, non ?
La Cecina de Léonore de Recondo, Manon Fleury, votre Cecina, est-ce que ce ne serait pas la tarte aux mirabelles de votre grand-mère, votre madeleine à vous?
Ouais, j'ai déjà dit ça.
Ouais.
Oui, parce que j'allais très souvent chez ma grand-mère l'été et mes grands-parents avaient des vergers en fait. Et on allait très souvent au verger ramasser les fruits. Et mes grands-parents, ils sont originaires de Franche-Comté. Donc on allait en Franche-Comté. En Franche-Comté, il y a la mirabelle, il y a des prunes. Mais il y avait beaucoup de fruits, en fait. On ramassait plein de fruits. Ma grand-mère faisait une magnifique tarte aux mirabelles. Et j'en ai gardé vraiment un souvenir incroyable. Donc c'est ma Madeleine de Proust.
Est-ce que Manon Fleury, ce serait pas de là, pas seulement, sûrement, il n'y a pas toujours une seule cause, mais que vous vient cet amour du produit qui est pour vous la base? Enfin, c'est vrai pour beaucoup de chefs, mais peut-être là encore de plus en plus, c'est encore plus vrai aujourd'hui. L'amour du produit frais. Vous avez été formé chez Pascal Barbeau, mais aussi chez Alexandre Couillon et aussi à la ferme de Dan Barber à New York, qui a cet amour du produit frais. Ça vient de là, le fait que vous cuisinez beaucoup les fruits, les fleurs, les légumes, frais, surtout frais.
Oui, ça vient de là. Ça vient aussi de ma maman qui m'a transmis ça parce qu'elle aimait beaucoup les produits. Voilà, j'ai mangé bio dès mon plus jeune âge. Donc, ma maman aimait beaucoup les produits et nous a vraiment sensibilisés à ça parce qu'on cuisinait beaucoup à la maison et que ma maman nous a aussi laissé toujours faire, mes frères et moi. Et en fait, je pense qu'elle nous a est toujours montré en fait, et on s'est tout de suite débrouillé seul assez vite. Et c'est comme ça que je me suis mise à cuisiner, mais parce qu'on était aussi une famille de gourmands, et je pense que c'est comme ça que j'y suis venue.
Luc Dubanchet, est-ce que c'est pas ça la gastronomie dernier cri, c'est celle qui revendique un retour aux sources? Alors ça veut passer par l'amour du produit, par l'intérêt pour les circuits courts, par la passion des terroirs, et ça c'est un des thèmes qui vont être développés dans ce festival cette année.
C'est central et ça aurait presque jamais dû être oublié, cette histoire. On vient d'un pays paysan, on a perdu tout ça. Hein. La deuxième moitié du XXe siècle a été un saccage absolu, alors on peut toujours... Il ne s'agit pas de tirer sur ni les agriculteurs, ni sur les institutions, c'était comme ça. Il fallait produire, et puis c'était à la mode, on mettait de l'industrie dans l'agriculture. Et donc on a, je crois, la cuisine, par conséquent, elle-même, pas dans le discours, mais dans les faits, a oublié en route les paysans, a oublié la terre, a oublié les produits. Et a oublié que la création, justement, elle était simplement dans le rapport intime entre une salade frisée et un œuf juste cuit. Et quand on est capable de faire ça, et de pouvoir assaisonner justement une salade frisée, trouver d'abord une belle salade frisée, et puis de cuire correctement un œuf au plat avec le jaune qui va venir comme ça apporter son gras, ce côté incroyablement long, et que la salade frisée va venir pour le coup piquer la bouche, c'est quelque chose qu'on a aussi tendance à oublier. Et je crois que la génération de Manon, la génération de la jeune cuisine, elle fait pas que revendiquer cette appartenance à la terre, elle la réalise réellement dans l'assiette. Et quand on va au Mermoz à midi pour une poignée d'euros, on
est confronté. Qui est le restaurant Manon Fleury.
Oui, bien sûr, qui est le restaurant de Manon Fleury, dans un quartier qui n'était pas fait pour ça, d'une certaine manière. Le 8e arrondissement, on pouvait attendre tout sauf cette table humaine. Eh bien, on est confronté à justement cette forme de simplicité heureuse, cette juxtaposition dont on sent très bien qu'elle peut encore aller beaucoup plus loin, mais pas que, non pas qu'elle le sait pas, elle le sait, et elle fera des choses magnifiques, Manon, dans sa carrière. Mais je crois qu'elle aura, comme tous ceux de sa génération, cet appétit de servir aussi ce qui est la terre. Et on est dans un contexte aujourd'hui, on peut pas faire un festival de cuisine comme Omnivore sans évidemment parler de l'agriculture, sans évidemment parler des intrants, de la chimie, et elle est présente dans, les pesticides sont présents à la fois dans ce qu'on mange et dans ce qu'on boit, et on a une scène artisan depuis des années qui met en avant chaque fois une vingtaine, une trentaine d'artisans qui n'ont pas de moyens de communiquer, qui viennent souvent rencontrer d'ailleurs les chefs pour créer ces relations et ces circuits courts, comme vous disiez. Alors, il ne faut pas embellir parce que ça reste totalement à faire. Parce que tout a été détruit, ou quasiment tout a été détruit. Les circuits ont été détruits. Et si aujourd'hui, enfin, l'agriculture a pour la première fois un seuil positif, de jeunes agriculteurs qui s'installent et qui vont en plus vers le bio, c'est tout récent et c'est tout fragile. Et donc, il faut qu'on pousse conjointement ça vers un système qui devienne justement un système pérenne et qui permette aussi à ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent d'avoir accès à la cuisine, et pas simplement dans des restaurants très chers, très huppés, mais aussi dans la cuisine du quotidien. Et je crois que c'est le travail conjoint. Alors oui, c'est un mouvement, bien sûr que c'est un
mouvement. Donc à Omnivore, le festival, il ne s'agit pas seulement d'échanger des recettes et de manger, mais aussi de penser la cuisine, penser ses mouvements. Manon Fleury, la jeune cuisine aujourd'hui, elle est tiraillée entre des contraintes qui sont esthétiques, qui sont imposées par, je sais pas, on est environné d'images, hein, même Instagram et compagnie, où on voit les recettes sur ces images, et puis des questions de santé publique, faut arriver à manœuvrer, à faire la cuisine qu'on aime, à se faire plaisir avec tout ça.
Ouais, je pense que c'est vraiment l'enjeu, en fait, c'est l'enjeu de la nouvelle génération. Et moi, je parle souvent de cycle, et je pense que tout ça, c'est une espèce de maillon, et avec entre les producteurs, les chefs, penser à tous les maillons de la chaîne. Donc ça part de l'agriculteur, ça va le chef, et après aussi, on pense, voilà, faut penser à ses déchets, faut penser à comment on gère notre matière première, de tout utiliser, de rien jeter, donner une seconde vie au produit, savoir comment on réutilise, et tout ça, c'est vraiment l'enjeu de notre nouvelle génération. Et il y a encore trop peu de jeunes chefs qui s'y attablent, je trouve.
Luc Dubanchet.
Oui, c'est un enjeu majeur. Et il faut pousser, il faut pousser. C'est un combat, hein, la cuisine. C'est un sport de combat, la cuisine.
Oui, non, mais vraiment, hein.
C'est que tout peut s'affaisser. Il n'y a rien de plus simple que de revenir en arrière. Et de dire, au fond, ce système-là, où on gagnait bien de l'argent en faisant pas grand-chose, en tout cas très peu, eh ben c'est bien d'y revenir. Et puis, du coup, on se rassoit sur les valeurs sûres. Mais la valeur sûre, en 2019, elle n'est plus sûre. Et donc, le combat, ça consiste à former, faire venir, intégrer dans les écoles, dans les systèmes, dans les restaurants, dans des festivals comme Omnivore, des tas de jeunes gens, et nos visiteurs, ils ont entre 25 et 35 ans, qui vont ensuite porter ce message chez eux, où qu'ils soient, en France et ailleurs.
Vous disiez qu'il n'y a pas d'âge. On peut venir quand on est plus âgé que 35 ans au festival ?
Suis moi-même.
Allez, d'accord. On vous retrouve juste après la chronique La Cerise sur le gâteau. Restez bien avec nous à l'écoute de France Culture. Alors Pierre, vous nous emmenez tous à Montpellier.
Voilà, je vous emmène à Montpellier pour voir une exposition qui est exceptionnelle. Oh, non pas parce que les œuvres que l'on peut y découvrir sont particulièrement spectaculaires, encore que, mais parce qu'elle pose une question fondatrice sur la gastronomie. La cuisine est-elle un art ? Oui, une question fondatrice qui, formulée autrement, pourrait être « Les cuisiniers peuvent-ils prétendre au statut d'artiste ?» Répondre positivement à cette question quand on compte produire une exposition vous fait d'emblée tomber sur un os de taille. Que montrer quand les œuvres culinaires sont par nature éphémères ? Et le premier point fort de cette exposition vient d'abord du fait qu'elle apporte une réponse claire à un potentiel statut du cuisinier en faisant passer sans encombre 25 chefs et 20 artistes d'art contemporain par la même entrée des artistes de la Panacée, le centre d'art contemporain dirigé par Nicolas Bourriaud. Alors, c'est vrai qu'il y avait déjà eu quelques tentatives du genre. En 2007, par exemple, la question avait surgi quand on avait découvert le nom du chef catalan Ferran Adrià sur le programme de la Documenta de Cassel. À cette occasion, il n'avait pourtant rien montré, considérant que son art devait être dégusté et qu'il fallait pour cela se rendre précisément dans son restaurant. En 2008, le magazine Art Press avait également ouvert une voie, un peu brouillonne mais prometteuse, en publiant un hors-série intitulé, sans grande imagination il faut le dire, « La gastronomie, le vin, l'art ». Et puis plus rien, pour sans doute au moins une raison que Nicolas Bourriaud résume ainsi, beaucoup de gens ne sont pas prêts et pensent que la cuisine reste un art frivole et superflu. Alors pourquoi déjà en 2013, alors qu'il était directeur des Beaux-Arts de Paris, le même Nicolas Bourriaud et son complice commissaire, le journaliste Andrea Petrini, se sont-ils lancés dans une telle aventure? Sans doute parce que la poussée mondiale d'une nouvelle génération de cuisiniers qui dépasse les bornes est désormais trop forte pour que l'on puisse décemment continuer à tous les considérer comme de simples artisans commerçants.
Alors comment les commissaires ont-ils résolu cette question du « que montrer » ?
Eh bien Caroline, leur idée principale a été de demander aux cuisiniers d'inventer des formes pour nous faire entrer physiquement dans l'esprit de leur plat, tandis que les artistes choisis s'attachent à pousser le visiteur à développer ses sensations gustatives ou olfactives. Ainsi, côté chef, par exemple, le péruvien Virgilio Martinez travaille sur la couleur comme moyen de changer l'apparence de la nourriture sans changer l'essence. Le danois René Redzepi présente, lui, l'invisible, qui montre l'invisible de chaque membre de l'équipe du restaurant. Et la Slovène, Anna Ross, propose par exemple une création vidéo où elle sublime les solutions goûteuses pour les allergiques. Côté artiste, le français Mathieu Mercier présente Pasta Utopie, un magnifique travail sur les pâtes. L'américain Sean Raspett travaille lui sur les odeurs et les parfums. Quant au japonais Natsuko Uchino, qui travaille habituellement l'argile et la céramique, il présente à Montpellier un projet de ferme collective en permaculture. Bref, l'art contemporain s'est trouvé de nouveaux acteurs dans un cadre définitivement loin du frivole et du superflu.
Merci Pierre Hiverna. Juste un mot, puisque vous nous avez proposé un tour du monde avec cette exposition. Il y a toujours un pays invité dans le festival omnivore Luc Dubanchet. L'année dernière, c'était la Flandre. Cette année, les Pays-Bas. Pourquoi les Pays-Bas? C'est l'avant-garde de la gastronomie?
C'est presque une contre-programmation. On n'attend pas les Pays-Bas, effectivement, comme nation culinaire. Et quand on est venu nous proposer d'intégrer les Pays-Bas comme invité d'honneur, moi, j'ai voulu y aller, tout simplement. Je connaissais pas très bien, à part les grands centres urbains. Et j'ai passé quelques jours là-bas, quelques dizaines de restaurants. Et je me suis aperçu que, bien sûr, il y a toute une agriculture intensive, etc. Et que celle-là, elle existe, et comme elle existe en France ou partout, au Danemark aussi. Mais qu'il y a aussi là-bas des artisans, je sais pas si on peut les appeler des artistes, en tout cas des chefs, qui sont, comme Manon, dans cette belle trentaine, ou à peine, et qui sont en train de réécrire l'histoire, une page d'histoire gustative de leur pays. Donc c'est pour ça qu'ils sont invités.
Le Mermoz, Manon Fleury, c'est à Paris dans le 8e arrondissement, rue Jean Mermoz, midi restaurant, le soir tapas et bar à vin, il faut y aller, c'est délicieux. Mais c'est petit, donc il faut réserver, hein. C'est pas beaucoup de tables. Merci beaucoup d'être venus tous les deux dans cette émission. Bien sûr, les bonnes choses se poursuivent en réécoute et en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Aïgoui Chichkoyan, Natacha Triou, Jean-Christophe Francis pour la réalisation et notre technicien du jour, Bruno Gagnère-Fontani, vous souhaite une excellente journée à l'écoute de France Culture, et dans un instant, ce sera le journal.